Comme je le disais au début de l'émission, Quentin, c'est vers toi que je me tourne maintenant, c'est un biais philosophico, politico, médiatico, je ne sais pas trop quoi, que tu nous proposes aujourd'hui.
Tout à fait, puisque nous allons parler de Michel Onfray. Parmi les baudruches médiatiques estampillées du sceau de la rébellion, Michel Onfray a toujours été pour moi une source constante d'exaspération, matinée parfois, il est vrai, d'une once de sympathie. Revenu sur le devant de la scène à l'occasion de ses passes d'armes avec Manuel Valls, ou plus récemment lors de son passage dans la quasi-totalité des émissions de débats politiques, notre Cassandre philosophique semble être devenu en l'espace de quelques mois un nouveau Jean-Paul Sartre, une figure qu'il dit pourtant détester, intervenant sur tous les sujets avec un même aplomb.
Ah, tu y vas fort, un nouveau Jean-Paul Sartre
Tour à tour islamologue, politiste, économiste ou critique musicale et gastronomique, Jean-Paul Onfray ausculte en bon médecin volubile le corps malade de la société française. Dans un rare accès de lucidité, le chroniqueur et écrivaillon de l'émission de Laurent Ruquier, Yann Moix, lui a fait remarquer qu'à force de parler tout le temps, il avait l'illusion de penser constamment. Au regard de la médiocrité générale de ses interventions audiovisuelles, on ne peut qu'amèrement reconnaître la justesse de ce constat. À propos d'un ouvrage du non moins inénarrable Bernard-Henri Lévy consacré à l'Asie, le sinologue Simon Leys parlait d'une excursion en haute platitude, expression qui sied à merveille à la réflexion d'autre philosophe normand. Grâce à Michel Onfray, nous savons à présent que le Parti Socialiste n'est plus de gauche depuis longtemps et trahit allègrement les intérêts du peuple. Quoique cette première constatation n'est toutefois pas inutile pour délivrer les derniers illusionnés de l'hollando-macronisme. Et enfin, ère du temps décliniste oblige, que notre civilisation judéo-chrétienne européenne serait moribonde face à un monde islamique en pleine vitalité. Je ne suis pas certain que nos amis syriens et afghans considèrent Daesh et les talibans comme un signe de la bonne santé civilisationnelle que leur prête l'agité du bocage, puisqu'il est énorme. Pourtant, il n'y a là rien de véritablement nouveau pour qui suit la trajectoire de la comète onfrayenne. Auteur d'une contre-histoire de la philosophie en plusieurs volumes, Michel Onfray se fait depuis une décennie l'arbitre biaisé d'épuisants matchs de boxe entre penseurs.
Tu les rappelles un petit peu pour nous et nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. D'un côté, le camp ténébreux de la philosophie idéaliste, héritière de Platon et du christianisme, plongée dans le déni du corps et de l'existence terrestre, et face à eux, le matérialisme des hédonistes solaires, partisans de la libre jouissance. Cette distinction radicale pourrait faire sourire si, à mesure que l'on se rapproche de l'époque contemporaine, ce duel plurimillénaire ne prenait pas un tour absurde. À l'opposition originelle entre Platon et Démocrite, se substituent les duels éculés de Karl Marx et de Michel Bakounine, puis de Jean-Paul Sartre et d'Albert Camus. Tout de même, un bien étrange manichéisme pour cet adversaire déclaré du christianisme. Mais le plus comique tient sans doute à la propension d'Onfray à brûler avec ardeur ce qu'il aimait hier. Le marquis Donatien de Sade, auquel il rendait hommage dans le titre du premier tome de son journal, Le désir d'être un volcan, est désormais un être abject, habité par la passion de la méchanceté, une création fantasmatique de la vilaine intelligentsia parisienne, destinée à tromper son monde. Nous prions généreusement l'office des cimetières de nous prévenir tout agissement suspect du cadavre du divin marquis entre 1814 et nos jours, susceptible d'expliquer avec certitude la rupture entre Michel et Donatien. Après avoir utilisé, non plus Sade, mais Sartre et son projet de psychanalyse existentielle dans un ébouriffant pamphlet contre Sigmund Freud, où l'on apprend notamment que le penseur viennois couchait avec sa belle-sœur et aurait universalisé ses complexes personnels, voilà qu'il renie le cyclope de Saint-Germain-des-Prés, coupable d'avoir persécuté Camus et d'avoir profité dans les années 30 de billets gratuits offerts par le régime mussolinien pour partir en vacances en Italie avec Simone de Beauvoir. On en a fusillé d'autres pour moins que ça. Lui qui nous serinait du matin au soir avec ses idoles Michel Foucault et Gilles Deleuze, il n'est, hélas pour nos oreilles, pas le seul à le faire, les considère à présent comme co-responsables du divorce entre la gauche et le peuple, remplacés par des populations périphériques ou minoritaires, sans papier, gays, fous et j'en passe. Seul Nietzsche trouve encore grâce aux yeux du philosophe. Courage Friedrich, ton tour viendra bientôt.
Tu joues la Cassandre toi aussi.
Oh, je ne crois pas. Dès lors, face à ce flot de conneries déversées depuis deux décennies, il est légitime de se demander ce qui justifie ce tapage médiatique récent. C'est que notre éminent intellectuel aurait, comme on dit aujourd'hui, franchi la ligne rouge lors d'un énième entretien accordé au Point en mars 2015 en préférant, je cite, une analyse juste d'Alain de Benoist à une analyse injuste de Bernard-Henri Lévy. Penseur de la nouvelle droite française et cofondateur en 1969 du GRES, groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne, Alain de Benoist a amorcé dès la fin des années 1970 un rapprochement avec certains courants de la gauche tiers-mondiste et décroissante sur une base ethno-différentialiste de solidarité, entre l'Europe et le tiers-monde face au capitalisme américain.
Bah, ça fait beaucoup de termes compliqués tout ça.
Eh oui, s'appuyant sur des concepts empruntés à George Orwell ou au philosophe montpelliérain Jean-Claude Michéa, De Benoît prône une forme de socialisme national, pas de mauvais jeu de mots, antilibéral,
wow,
souvent en adéquation avec l'un de ses anciens protégés, le sémillant philosémite Alain Soral. Il n'en fallait pas plus pour que Manuel Valls, toujours prompt à flairer l'indignation lacrymale, ne dénonce la perte des repères de Michel Onfray, lequel le traitait avec une rare précision linguistique de crétin. Alors même qu'en dehors d'un carteron de psychanalyste ulcéré par son ouvrage anti-freudien, nul parmi les figures de la gauche installée n'avait songé à s'offusquer du n'importe quoi philosophique du gourou d'Argentan, ces messieurs le trouvaient à une époque d'un rafraîchissant iconoclaste, n'est-ce pas ? Le voici voué aux gémonies, vêtu de la tunique de naissance de l'intellectuel d'extrême droite. Jamais en reste lorsqu'il s'agit de complaire à un pouvoir quelconque, le grand inquisiteur dostoïevskien de la gauche sociale-libérale, Laurent Geoffrin, lui a même consacré la une de Libération du mardi 15 septembre, le classant parmi les nouveaux réactionnaires faisant le lit du Front National. Et par ce jeu médiatique singulièrement stupide du chat et de la souris, il comble de bonheur ses adversaires en allant à grands pas là où ils l'attendent. Désormais placé aux côtés d'Éric Zemmour, grand représentant du féminisme français et des citations non référencées, et de l'académicien atrabilaire Alain Finkielkraut, Michel Onfray fait les gros titres des hebdomadaires. Précisons d'emblée que l'étiquette de nouveau réactionnaire ne veut strictement rien dire. On doute fort que l'invitation au socialisme libertaire d'Onfray s'accommode du bonapartisme patriarcal de Zemmour. Mais qu'importe, que ne ferait-on pas pour faire parler de soi ? Il ne se rapproche véritablement que dans la prétention totalisante à vouloir expliquer d'une manière simpliste le déclin de la société française, recourant le plus souvent à des arguments culturalistes sans véritable fondement socio-économique. Grâce à Geoffrin et consorts, Michel a découvert une autre manière d'être médiatiquement subversif. Le chantre deleuzien de la libération du désir étant passé de mode, place à la nouvelle peau de la couleuvre de Normandie. Pierre-Louis écrivait à la fin de son roman érotique « Trois filles de leur mère » que les jeunes filles ont bien des excuses. Ajoutons par charité que les vieux cornichons en ont aussi.
Merci Quentin pour ce papier sur un personnage qui semble-t-il t'agace.
Oh, mais on finit par avoir de la sympathie même pour les gens qui vous agacent.
On en reparlera un petit peu tout à l'heure.
Tout à fait.